Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Cette histoire débute à la fin du mois de mars 2014, dans la salle d'attente d'un gynécologue. Marjorie, 38 ans, dont je vais vous raconter l'histoire, a pris rendez-vous pour se faire renouveler son ordonnance de pilule. Rien de plus. Je vais vous lire les premières lignes de son livre. Vous allez tout de suite comprendre à qui vous avez affaire. Ma gynéco a du retard. Chaque fois, c'est pareil. Ça fait au moins une heure que je l'attends. Ma gynéco est très sympa, mais elle est bavarde. C'est pour ça qu'elle est constamment en retard. Elle pose toujours des questions indiscrètes du style « Combien avez-vous eu de partenaires sexuels ces dernières semaines ?» De quoi elle se mêle ? La dernière fois que je l'ai vue, elle a trouvé une capote coincée depuis 3 jours dans mon vagin. La honte, souvenir d'un garçon dont le corps taillé dans du marbre rappelle celui des statues grecques. Bientôt je ne serai plus désirable. Il faut profiter de sa beauté et de sa jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, le genre de nénette, 38 ans mais l'impression d'en avoir 20. Célibataire, bien sûr, sans enfant, avec un goût prononcé pour les jeunes garçons. Vous voyez, ceux qui ont le ventre plat, la peau douce et tonique. Et tant mieux s'ils ont des biscottos. Dans son milieu, il n'en manque pas des beaux garçons. Marjorie est attachée de presse dans la mode, à Paris. Alors bien sûr, il y a quelques gays. Mais les autres, si ça peut faire son 4 heures et qu'ils sont bien fichus, elle prend. Marjorie est une femme libre. Et donc aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa gynéco qui, avec une heure de retard, vient d'apparaître à la porte de la salle d'attente. Bonjour Madame Jacquet. On y va ? Oh, Madame Jacquet. Marjorie n'aime pas qu'on lui dise Madame. Ça fait vieille, Madame. Elle se déshabille, elle se pèse, et la gynéco commence par une palpation des seins. Contrôle de routine. De tout petits seins d'ailleurs, bonnet A. Elle regarde le plafond, elle pense à son déjeuner, elle a faim. Ah, je sens une petite anomalie. Un kyste sans doute, rien de grave. Mais le mieux serait de passer une mammographie. Juste par précaution. Ok. Marjorie prend l'ordonnance et elle la met en boule au fond de son sac. Et elle file à son boulot, son bureau et place des Victoires, au centre de Paris. Et elle enchaîne, sa vie est un tourbillon. 10 heures de boulot et le soir, les cocktails avec les clients, les journalistes à qui il faut fourguer le dernier jean qui fait remonter les fesses. C'est ça, son métier. Et après, en général, elle ne dort pas seule. Et si par hasard elle rentre seule, il lui arrive de pratiquer le sexe virtuel, figurez-vous. Un certain Rémi qu'elle a rencontré sur un site. Sauf qu'il est à Marseille et elle à Paris. Ce qui ne les empêche pas de se chauffer via Internet. Quand je vous disais qu'elle était libre, elle est libre. Et c'est comme ça que pendant 2 mois, Marjorie oublie son ordonnance pour une mammographie. 2 mois, alors que sa mère l'appelle tous les jours pour lui dire.
Tu l'as passé, ta mammographie, ma chérie.
Alors finalement, un lundi matin du mois de mai, elle y va. Alors, le module a les bords bien délimités, c'est pas trop mal. Par précaution, je vais vous planifier une biopsie. On prend pas de risque en matière de cancer du sein. D'accord ? La biopsie a lieu le lendemain. Ça consiste à introduire une longue aiguille dans le sein pour prélever un petit morceau du kyste. Ça fait très mal. À ce moment-là, dans quel état seriez-vous, vous ? Inquiète ? Angoissée ? Dans l'attente des résultats ? Eh bien Marjorie, pas du tout. Pour elle, c'est un kyste bénin, on lui fait faire tous ses examens par précaution, elle a 38 ans. Elle ne va pas avoir un cancer à 38 ans. Deux semaines après la biopsie, elle reçoit un texto de sa gynéco, genre injonction. « Bonjour, je vous attends dans mon bureau demain à 17h. » Le lendemain à 17h, la gynéco s'assoit en face d'elle. Elle a un air grave. « Madame Jacquet, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez un cancer du sein. » Marjorie ne réalise pas tout de suite à quel point sa vie bascule là, pile à ce moment-là. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marjorie Jacquet. Mais ça pourrait être la vôtre. C'est l'histoire d'une femme à qui on dit à 38 ans, « Vous avez un cancer du sein ». Et elle sera là tout à l'heure, Marjorie Jacquet. Je me suis inspiré du livre qu'elle a publié l'année dernière, « Les cheveux dont je rêvais » aux éditions Max Milo. Je vous ai raconté qui elle était, attachée de presse dans la mode à Paris, une jeune parisienne délurée, dévoreuse de vie, croqueuse de garçons plus jeunes qu'elle, qui pense qu'elle a toujours 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, elle sort de chez le médecin, un peu sonnée. Elle a un cancer du sein. Et là, c'est comme si son insouciance s'envolait d'un coup. Elle rentre chez elle et elle se barricade et elle pleure. Et ensuite vient le rendez-vous chez l'oncologue. On se sent seul dans ce genre d'épreuve. Alors elle a fait venir sa mère du Havre. Le médecin est un spécialiste du cancer du sein, elle a de la chance. Il les reçoit dans un bureau minuscule. Deux chaises, une table d'examen, un appareil pour lire les radios, c'est tout. Et d'entrée, il lui palpe les seins et il commente à voix haute pour son interne. « Alors, nous avons là une tumeur, mais non palpable. » Non palpable. Donc la gynéco s'était trompée quand elle a senti quelque chose. Elle s'est trompée, mais elle lui a sauvé la vie. Alors voilà, madame, le programme que je vous propose. Une chirurgie, pour commencer. L'ablation de la tumeur sur votre sein droit. Et puis dans la foulée, 8 séances de chimiothérapie, qui seront espacées de 3 semaines chacune. Et après, de la radiothérapie. Et ça devrait passer. En face de lui, Marjorie est en pleurs.
J'ai appris que j'allais être chauve et que j'allais être stérile. Et donc j'ai été reçue par le professeur Greenberg qui a pu congeler 3 ovocytes. Non, j'ai pas de désir d'enfant, mais j'ai préféré quand même le faire parce que j'avais peur de regretter. Si un jour j'ai envie d'en avoir, j'ai le droit de les utiliser, je crois, jusqu'à l'âge de 46 ans.
De tout ce qui l'attend, vous savez ce qui la perturbe le plus ? C'est de savoir qu'elle va perdre ses cheveux. Son arme de séduction, ses longs cheveux, qui boucheront bientôt la bonde de sa douche. Alors figurez-vous qu'elle va dans une boutique de perruques, tout de suite. Genre, alignement de perruques sur une étagère, la plupart en synthétique. Une horreur. Elle en essaie une, et elle et la vendeuse éclatent de rire. On dirait qu'elle a un poulpe sur la tête. On est à 3 jours de l'opération. Maintenant que vous la connaissez un peu, qu'est-ce qui peut consoler Marjorie ? J'ai l'impression de vous entendre tous hurler « Un garçon !» Bien sûr. Ben oui, un garçon. Un ventre plat, des pectoraux. Elle en a un en vue. Un Marocain, Hamid. Ça fait quelque temps qu'elle le chauffe sur Tinder. Si vous n'êtes pas au courant, c'est une application de drague qu'on installe sur son portable. Demandez à vos enfants et à vos petits-enfants, ils vous expliqueront. Donc, Hamid. Hamid l'embrasse dans le cou, Hamid la fait frissonner, ça la console, ça marche encore. Restera-t-elle cette femme désirable ? C'est toute la question. La veille de l'opération, Marjorie vérifie qu'elle a de bonnes copines.
Coucou Marjo, ça va ? Dis donc, pour tes cheveux, je veux pas te voir avec une pieuvre sur la tête. Alors figure-toi que j'ai appelé John Nollet, tu sais le coiffeur. J'ai pris rendez-vous pour toi.
C'est une blague ?
Non, pas du tout. J'ai même créé une cagnotte. On va te l'offrir, ta perruque.
Et le lendemain donc, direction l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Une chambre à 2 lits. Au 6e étage, 50 cm entre les 2 lits, un placard en formica et un ventilateur qui grince. Et dans la salle de bain, un lavabo et des toilettes. Et une seule douche pour tout l'étage. Ambiance 1960. Mais médecine de qualité. Le lendemain, Marjorie est de retour à la maison. Avec en tête la prochaine étape, la chimio. Et donc la perruque. C'est avec sa copine Anne-Charlotte qu'elle va au rendez-vous avec le fameux John Knowley, le coiffeur des stars. Le monsieur occupe une suite dans un grand hôtel rue de la Paix. Ça coûte bonbon, ça, au Monopoly. La suite 101. Des malvuitons, des livres, des dessins, des photos, des objets rapportés des quatre coins du monde, et une bougie allumée. Et lui, John, barbu, les yeux clairs, les cheveux longs, bel homme.
Alors ma jolie,
quels seraient les cheveux dont vous avez toujours rêvé?
Bah, des cheveux très longs, jusque sous les seins.
Marjorie est venue avec des photos. John voit tout de suite ce qu'il va lui proposer.
Jane Birkin, années 70, c'est exactement ça qu'il vous faut.
Banco. Et les voilà qui trinquent au champagne à sa future perruque. Et le soir, rendez-vous surprise dans un bar, tous ses amis sont là et chacun d'entre eux lui offre une poignée de ses cheveux. Jusque-là, entre nous, elle a de la chance, Marjorie. Je pense à toutes celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter une perruque, même en nylon. Celles qui nouent un fichu en attendant que ça repousse. Mais ce qui l'attend maintenant, la chimio, va mettre toutes les femmes à égalité. Toutes. Marjorie est terrorisée. L'infirmier commence par lui poser un casque bleu sur la tête, rempli de glaçons.
Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pour éviter la chute des cheveux. Ça ne marche pas, mais ça vaut le coup d'essayer, non?
Marjorie ferait n'importe quoi pour que ses cheveux ne tombent pas. L'infirmier connecte la perfusion au cathéter qu'on lui a placé au préalable, juste au-dessus de la poitrine. Et le liquide écarlate se met à couler. Ça dure une heure et demie. Et quand c'est fini, quand elle se lève, elle a des vertiges. Et elle va passer la semaine qui suit chez papa-maman, au Havre, dans sa chambre d'adolescente. Autant vous dire que pour la femme indépendante qu'est Marjorie, c'est une épreuve de plus. Une semaine avec une sorte de gueule de bois, la porte de la chambre toujours fermée parce qu'elle ne supporte pas les odeurs de la maison. Et notamment cette odeur de café. Pouah ! L'oncologue l'a prévenu. Les cheveux. La chute des cheveux interviendra 15 jours après la première injection. Alors tous les jours, elle se met devant la glace et elle vérifie, elle tire sur les cheveux. Pour l'instant, tout va bien. Au bout d'une semaine, retour à Paris et un soir, elle reçoit un texto d'un mec qu'elle a rencontré il y a 2 mois. Il sait qu'elle est malade, mais il lui écrit « J'ai envie de te voir, mais tu es malade ». Honnêtement, elle n'a pas envie de le voir. Elle a la tête ailleurs, mais une petite voix lui dit que bientôt elle n'aura plus de cheveux que ce garçon. C'est peut-être la dernière occasion avant longtemps. Alors elle dit oui. Et elle l'attend excitée comme une puce. Mais le goujat ne viendra pas. Le cancer lui a fait peur. Le lendemain, c'est le grand jour. Elle va récupérer sa perruque chez le fameux John. Il la lui installe. Elle est subjuguée. Elle n'a jamais eu d'aussi beaux cheveux. La frange lui donne un air malicieux, le châtain, ma foi, lui va bien. Mais bon, pour l'instant, elle n'en a pas besoin. Elle rentre, elle la pose sur la table de nuit, on verra plus tard. Le lendemain matin, elle est fiévreuse. Elle a une angine et une chute de ses globules blancs. Merci la chimio. Et elle reste au chaud, elle s'allonge sur son lit. Et c'est quand elle se relève qu'elle voit les cheveux sur son oreiller.
Pour détruire les cellules cancéreuses, il faut aussi détruire les cellules qui s'encènent. Évidemment, ça commence par les cheveux. On perd aussi ses cils, ses sourcils. Donc là, on se sent complètement amputé de sa féminité. Et puis, on n'a plus ses règles, en fait. Donc, on est ménopausé chimiquement. On est stérile. C'est le sein aussi qui est touché. C'est quand même un attribut féminin, érotique, très puissant. Donc, on n'a plus de désir, plus de libido. Et c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui me reste de féminin ?
Elle a l'impression de partir en lambeaux, en lambeaux. Elle passe la main dans ses cheveux, c'est le cauchemar. Elle se lève, ses cheveux s'envolent. La première chose qu'elle fait, vous savez ce que c'est ? Elle efface sur son portable les applications de drague, Tinder et les autres. Elle se dit qu'à partir de maintenant, elle fait peur aux hommes. Elle pensait qu'elle aurait le courage de se raser le crâne. Mais toute seule, elle n'y arrive pas. Du coup, elle a une idée un peu dingo. Elle invite deux copains et deux copines à eux de la tondre. Avant qu'ils n'arrivent, elle gobe un anxiolytique pour calmer ses angoisses. Avec eux, elle boit un peu de vin blanc, mais honnêtement, bah, ça lui donne la gerbe. Ça aussi, il faut qu'elle y renonce. Dans la salle de bain, elle s'assoit sur le rebord de la baignoire, elle ferme les yeux, et l'un de ses copains lui passe la tondeuse sur tout le crâne. Et quand c'est fini, elle ne veut pas voir. Enfin, sans la perruque. Parce qu'avec la perruque, ma foi, elle se sent belle. Depuis 3 mois, elle craignait ce moment, mais ça va. Elle a fait le deuil de ses cheveux. Du coup, ça la met en confiance. Elle enfile une tenue moulante et elle file à l'anniversaire d'un pote. Les gens sont adorables avec elle. « Oh ma chérie, tu es rayonnante !»« Oh la Marjo, qu'est-ce que t'as bonne mine !» Au début de la soirée, ça va. Mais plus le temps passe, plus elle se rend compte qu'elle n'a plus rien à voir avec tous ces gens. Tous ces amis-là, ça la gonfle. Elle pensait qu'elle pourrait mener une vie normale, mais en vérité, elle n'en a pas envie. Tout simplement, pas envie. Le cancérologue lui a programmé 8 séances de chimio. Et avant chaque séance, c'est toujours le même rituel. Cortisone, vernis pour protéger les ongles, patch anesthésiant pour le cathéter, et c'est parti pour 1h30. Et après, Marjorie va systématiquement chez ses parents, au Havre. 1 semaine enfermée dans sa chambre, en pyjama, sans télévision. Et sans musique. Elle ne veut voir personne. Elle regarde le plafond pendant des heures. Et la semaine d'après, retour à Paris. Au ralenti, elle est épuisée, épuisée. Elle lit, ça pour lire, elle lit. Elle regarde des séries, c'est bien les séries, ça mange bien le cerveau. Et elle s'est mise à la cuisine, ça c'est thérapeutique. Et du coup, elle reçoit quelques amis à dîner. Et les hommes, alors ? Les hommes qui comptaient tant, avant. Pour être honnête, pour l'instant, séduire est au-dessus de ses forces. En plus, elle n'a plus de cils, plus de sourcils, sa peau s'est desséchée, craquelée, fissurée. Elle se sent laide. Mais en même temps, elle a besoin d'affection. Alors, l'air de rien, elle se recolle sur un site de rencontre. Et elle tombe sur Nicolas, 35 ans, pour une fois pas un gamin. D'après ce qu'il écrit sur son profil, ils ont des centres d'intérêt en commun. Ça peut coller. Pourquoi pas ? Mais elle le prévient. Elle a un cancer. Elle porte une perruque, elle a un cathéter. Pas de problème, je viendrai demain après-midi. Bon, le lendemain, il prévient qu'il aura un peu de retard. Un peu de retard, tu parles ? Il n'est jamais venu. Le lâche. Et puis arrive la 8e et dernière séance de chimio, en février. Elle y va avec Anne-Charlotte, sa meilleure amie. Et la séance se passe plutôt dans la rigolade. Mais quand l'infirmière la débranche, pour la dernière fois, Marjorie s'effondre en larmes. Et puis après commence la radiothérapie. Et le 13 mars, elle fête ses 39 ans. Et là, elle se fait un petit cadeau. Elle appelle l'un de ses anciens rancards. Elle double scotche sa perruque pour qu'elle ne tombe pas. Elle se met sur son 31. Elle veut être la plus sensuelle possible. Ils sont au lit tous les deux. Ils font l'amour. C'est bon. Et soudain, une chaleur intense. Elle soulève les draps. Elle saigne. Les draps sont imbibés de sang. On ne l'avait pas prévenu. Ses muqueuses sont encore à vif. Elle est morte de honte. Et ce garçon, elle ne le reverra jamais. Quatre mois après la fin de la chimio, ses cheveux repoussent enfin. Dans tous les sens, frisés, plus sombres, mais ils repoussent. Et puis à un moment donné, il faut retourner au boulot. Et Dieu sait qu'elle l'aimait, ce boulot. Elle l'aimait. Mais elle n'arrive pas à reprendre ses marques. Elle essaye, hein. Pendant un an, elle essaye de reprendre sa vie là où elle l'avait laissée. Elle n'y parvient pas. Elle ne retrouvera pas sa vie d'avant. Le tourbillon de la jeune Parisienne pressée, la séduction en tête de gondole, le défilé des jolis garçons. Maintenant, elle a besoin de temps pour elle, pour lire, pour écrire, pour cuisiner, pour se promener.
Je pense qu'avant, je vivais un peu comme un automate. J'allais au bureau, comme ça, métro, boulot, apéro, sans me poser de questions. Et j'étais toujours un peu dans la recherche de la séduction, du regard masculin, en fait. Et aujourd'hui, déjà, je m'habille ou je me maquille pour me plaire à moi et plus aux garçons, en fait. Et je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Ça a été vraiment un élément déclencheur, le cancer. Ça a été une épreuve très difficile, mais aujourd'hui, je suis heureuse de la vie que je mène.
Aujourd'hui, Marjorie est en rémission, comme on dit. Tous les trois mois, elle va voir son oncologue et elle sera officiellement déclarée guérie en juin 2019. Elle n'est plus attachée de presse dans la mode. Elle a monté une boutique sur Internet. Elle y vend des tapis berbères. À la dernière page de son livre, elle écrit: j'ai la sensation d'avoir basculé du monde léger et insouciant de l'adolescence à la vie d'adulte. L'impression d'être au seuil d'une nouvelle ère. Oui, j'ai changé. Car l'impression d'avoir touché la mort du bout des doigts vous confère une espèce d'assurance. La souffrance vous taille un nouveau mental de pierre. Je me sens pleine d'un sang nouveau, riche et armé pour faire face à toutes les situations. J'ai l'intuition qu'un avenir meilleur existe ailleurs.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.